Réjouis-toi, fille de Sion,
hey,
pousse des cris de joie, Israël. Il te sauvera, il te réjouira, il fera de toi sa plus grande joie. Réjouis-toi,
fille de Sion,
pousse des cris de joie, Israël. Pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem, fille de Jérusalem, fille de Jérusalem, de Jérusalem.
Voilà, si vous avez un stylo et un carnet, ou si dans votre Bible vous avez un peu de place à l'avant de la Bible, je vous invite ce soir à noter ce qui a été dit. Il y a 27 ans en arrière, je crois, ou 26 ans, je ne sais plus, ou peut-être 25 ans, 20 ans, je ne sais rien. Mais en tout cas, Dieu à l'époque vous avait parlé, il avait dit la chose suivante, un jour, vous serez un fer de lance dans le pays. Et honnêtement, à l'époque, on n'était pas 2000, on était loin de là. Ça n'allait pas très fort, les choses n'allaient pas aussi bien qu'aujourd'hui, et loin de là. Mais Dieu avait dit, et 25 ans ou 27 ans plus tard, les choses commencent à s'accomplir. Et je me dis, ce soir, Dieu a parlé et a dit que des pans entiers de résistance tomberont. Que les gens viendront par paquets de dizaines de milliers, peut-être plus, j'en sais rien. En tout cas, c'est des gros chiffres, hein. C'est des gros chiffres, viendront à l'évangile, et cette génération le verra encore. Dis à ton voisin, on le verra encore. Dis-lui, mais embrasse-le, serre-le fort. Mais c'est une bonne nouvelle. On le verra encore. Mais moi, ça me réjouit. Moi, je me dis, quand je serai 20 ans de plus, 25 ans de plus, je suis un peu plus vieux, mais je le verrai encore. Jean-Marie, tu le verras encore. Amen. Et nos amis suisses le verront aussi, parce que ça va déborder aussi en Suisse et en Allemagne. En tout cas, on prie pour ça. Et on souhaite de tout cœur que des milliers et des milliers d'hommes et de femmes voient et vivent ce qu'on vit. Amen. Mais pour cela, il y a une clé. Il y a une clé. Et une clé dont je parlais ce soir. Lisons ensemble dans Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 8 et 9. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et de rajouter, ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. On retient la fin du verset. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Avec moi, lisons un deuxième passage qui servira un peu de contexte ce soir dans Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11. Jacques 5, versets 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Cette année, il avait été dit au début d'année qu'on voulait retourner à l'assaut, entre guillemets, des âmes perdues, de celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu, de retrouver le zèle et la joie du gagneur d'âmes. et de voir arriver ici une belle moisson d'âmes. Vous vous souvenez de ça encore un peu? Vous avez encore un vague souvenir de ça? D'accord. Je voudrais ce soir, eh bien, avec ce verset de Galates 6, verset 9, qui a attiré mon attention sur le mot moisson. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le laboureur qui va labourer prépare le terrain. Et puis, il sème. Et pendant tout un temps, il ne pourra rien faire d'autre que d'attendre anxieusement, peut-être par moment, que la semaille lève et que la météo lui soit favorable, qu'il n'y ait pas de grêle qui lui tombe dessus, qu'il n'y ait pas de vent impétueux qui vienne abattre la moisson. Et qu'à un moment donné, quand la moisson sera mûre, il ira moissonner. Mais entre le moment où il laboure le terrain, et le moment où il sème, et le moment où il moissonne, il y a un temps où il exerce la patience. Un temps où il persévère, même s'il n'aura pas grand-chose. Et pendant tout un temps, il ne voit rien du tout, si ce n'est peut-être une petite ondée verte sur un champ. Et puis tout à coup ça pousse, et puis une tige apparaît. Et puis ce n'est pas encore ça. Il faudra encore du temps, il y a encore du temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le grain soit mûr et qu'on puisse le récolter. Et nous aussi, nous souhaitons moissonner à divers degrés. Oui, nous souhaitons moissonner des âmes qui arrivent. Et nous souhaiterions moissonner aussi nos fils et nos filles dans l'œuvre de Dieu. Peut-être moissonner des prières qu'on a envoyées depuis un certain temps. On a prié pour et on voudrait enfin voir le fruit arriver. Mais ce soir, je voudrais laissez un seul mot sur votre cœur, c'est le mot persévérance. Le mot persévérance. Le paysan est persévérant dans son attente du fruit. Celui qui travaille tous les jours avec des enfants, une maman, un papa, un éducateur, un prof, il travaille avec persévérance afin que tranquillement, tout ce qui est communiqué jour après jour, tous les bons conseils, les rectificatifs, etc., produisent à la fin un homme, une femme qu'on a élevé au rang d'adulte. Et pour cela, il y a besoin de persévérance. La persévérance est nécessaire pour remporter le prix. La persévérance est indispensable, c'est mon premier point, est indispensable pour pouvoir récolter le fruit. Connaissez-vous Walt Disney? Qui ne connaît pas Walt Disney? Qui connaît Walt Disney? Mickey, Dingo. Bambi. Et mes filles sont ravies. Qui connaît Thomas Edison? Thomas Edison. Celui qui a inventé... Entre autres, il a inventé la lampe à incandescence. Qui connaît Bill Wright? Plus compliqué. Ça ne vous dit rien, ça. Hein? C'est le premier monsieur ou ses deux frères, Will et Obure, qui ont réussi à faire voler un appareil plus lourd que l'air. Qui connaît l'apôtre Paul? Saviez-vous que Walt Disney, avec ses idées de génie, avec ses dessins fous, rigolos, Mickey, Dingo, il a dû aller frapper à 301 banques avant d'obtenir le premier prêt qui lui a ouvert la porte pour bâtir son empire. 301 fois, il est allé voir des banquiers. Il a fait 301 dossiers et essuyé 300 refus. Saviez-vous que Thomas Edison a fait 6000 tests. 6000 tests pour trouver le filament qui allait pouvoir, en le chauffant, donner une lumière incandescente. 6000 tests. S'il avait arrêté à 5999 tests, il n'y aurait pas eu de lampe à incandescence. Mais il a persévéré. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 à 33, pour lire ça ensemble, 2 Corinthiens 11. Nous allons lire un peu quelle attitude avait Paul face aux difficultés. Et il dira, 2 Corinthiens 11, verset 23. Souvent j'ai été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine. Je relis ça. J'ai été dans le travail et dans la peine. Et les serviteurs de Dieu. Exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Vous avez des soucis, dit Paul? J'en ai eu bien plus que vous. Mais il a fait une chose, et c'est le point commun à tous ces hommes dont l'histoire a retenu le nom. Tous ces hommes-là n'ont pas manqué de persévérance. C'est leur point commun. Ils avaient une vision qui les poussait, qui les drivait. Ils avaient une vision qui les animait. Et toutes ces choses-là les ont poussés à travailler, à recommencer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça perce, ça marche. Et un jour, Walt Disney est devenu le père de tous les parcs à thème. On connaît. Thomas Edison a inventé de multiples choses. L'apôtre Paul a donné une percée à l'évangile. Savez-vous qui c'est Figel? Connaissez-vous Figel? Si je vous lisais Hermogène, oui, évidemment Jean-Marie, l'érudit. Mais connaissez-vous Hermogène? C'est un peu plus connu. Connaissez-vous Démas? Figel, Hermogène et Démas étaient des disciples du Christ. Démas était même serviteur de Dieu. Mais leur point commun, c'est qu'ils ont abandonné. Leur point commun, c'est qu'ils ont lâché. Leur point commun, c'est qu'ils ont manqué de persévérance. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Allô ? Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Mon frère, ma sœur, tes prières que tu as fait monter au ciel sont en cours d'exaucement. Mais je t'en supplie, ne relâche pas, ne lâche pas, persévère ce soir. La persévérance est indispensable pour remporter le prix. On admire les sportifs qui font des exploits, mais ils ont persévéré de nombreuses heures d'entraînement. On admire des scientifiques qui font des grandes découvertes. On admire des missionnaires qui ont fait des percées pour l'évangile. William Carey, on l'appelle le père de la mission moderne, un de ses slogans était « Ma seule raison pour laquelle je réussis, c'est que j'étais un obstiné. Je sais être obstiné dans n'importe quelle direction, pourvu que ce soit celle de l'Esprit-Saint. » Il était obstiné. Un obstiné dans le bon sens du terme, un persévérant. Rejetons donc tout fardeau, dit Hébreux 12, verset 1, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés sur Jésus. Et ce sera mon deuxième point ce soir, la persévérance, où l'homme persévérant transforme l'adversité en étape de progression. Au lieu de se faire décourager par l'adversité, il va utiliser l'adversité comme un élément qui lui permet de progresser. Et il va dire, ok, j'ai un problème, mais mon problème, je ne suis pas seul, j'ai mon Dieu à mes côtés, et je me lève et j'y vais. Paul s'est levé et relevé maintes et maintes fois. Des naufrages, 3 fois des naufrages. Plusieurs fois, il a eu 39 coups de fouet. Je ne sais pas trop comment je réagirais si j'avais déjà reçu plusieurs fois 39 coups de fouet pour le nom du Seigneur. Peut-être aurais-je été un de ceux qui, comme Figel, Hermogène et Démas, auraient dit « C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Laisse tomber. » Et cette voix-là, je la connais bien. Vous savez pourquoi? C'est la voix du diable. Laisse tomber la foi. C'est trop dur d'être chrétien. Cède à la tentation. Allez, qu'une fois, il faut te faire du bien. Mais la persévérance transforme l'adversité en étape, en autant d'étapes de progression. On se souvient de Daniel, le prophète. Moi, j'aime ce jeune homme. Il a peut-être 17, 18 ans, je ne sais pas, peut-être même plus jeune. Il va être déporté d'Israël en terre ennemie. Et là, on remarque que c'est un homme d'élite, un fils de l'élite israélienne, et on veut le reformater à la culture locale. On le met à l'université du pays, et on veut le faire changer carrément d'identité. Il aura un autre nom. Mais pendant que cela arrive, il va refuser de manger les mets du roi, au risque de sa vie. Mais il va refuser. Et pour prix du refus, eh bien Dieu va l'élever. Dans Daniel 1, verset 8, on le voit refuser cette nourriture. Et l'eunuque qui regarde sur eux, qui veille sur lui, avec ses amis israélites, eh bien il est inquiet, il se dit, mais attends, je suis chargé de te faire grossir, alors il faut que tu manges. Et lui dit, non, écoutez, donne-moi que des légumes. Et au bout de 10 jours, il a pris du poids. Plus d'empompant que les autres. Expliquez-moi comment on peut prendre du poids qu'avec des légumes. Ça défie la raison humaine, là. Quand moi je fais ça, généralement je fonds. Comme graisse au soleil. Et lui, il a grossi. Mais dans son adversité, dans ses moments difficiles, il a tenu bon, il a persévéré. Et voilà ce qui arrive, voilà qu'à un moment donné, le roi exige des savants du pays, des mages, il exige qu'eux leur expliquent le rêve qu'il a eu, sans leur donner le rêve qu'il a eu. Et voilà que les trois amis de Daniel, avis Daniel, se mettent à prier. Et Dieu vient. Et Dieu vient. Lui donnant la révélation du mystère. Et ce sera le point de départ d'une vie au service de Dieu dans un pays étranger. Et cet homme va monter en grade. Il va avoir une haute fonction royale. Dans Daniel 2,48, on pourrait lire ça. Mais alors il continue à persévérer. Alors qu'il est devenu un homme respecté, un des grands ministres du pays, voilà que le gouvernement change, les ennemis arrivent, et c'est Darius, le Mède, qui prend la place. Et notre ami Daniel se retrouve là aussi en tant que haut fonctionnaire de l'État. Et alors, vous savez, quand on est comme ça, estimé, respecté, il n'y a pas que des amitiés qu'on se noue. Il y a aussi des ennemis qui se lèvent. Et voilà que les ennemis de Daniel se liguent contre lui et poussent le roi à promulguer une loi inique en disant que si on trouvait quelqu'un qui prie un autre Dieu que le Dieu du pays, alors il faudrait le mettre à mort. C'était une loi taillée sur mesure pour Daniel. Mais Daniel va continuer à tracer, il va continuer à persévérer, il va continuer à persévérer. Il ouvre sa fenêtre tous les jours à Jérusalem et il prie 3 fois par jour. Et à mon avis, il a dû prier suffisamment fort pour que la rue pouvait l'entendre. Il est arrêté, il est mis devant le tribunal et le roi est coincé. Le roi avait donné l'aval à la loi, maintenant il devait condamner son meilleur citoyen, son ami Daniel. Et Daniel, malgré son persévérance, malgré sa foi et son obéissance, va descendre dans la fosse aux lions. Mais dans la fosse aux lions, Dieu se révélera comme celui qui va le protéger. Et Daniel sera sauvé. Et on connaît la fin de l'histoire. Le lendemain matin, le roi se lève très tôt pour aller voir Daniel. Daniel, es-tu là, Daniel? Et Daniel dit, oui, je suis là. Ton Dieu a-t-il pu te sauver? Oui, mon Dieu a pu me sauver. Et Daniel sort de la fosse, et pendant que lui sort, ses ennemis descendent dans la fosse, et les lions les déchirent. Et maintenant, écoutez bien ce que la persévérance de Daniel a produit. C'est la très belle déclaration du roi Darius. On pourrait le lire dans Daniel chapitre 6, verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. C'est un roi païen qui dit ça. Que la paix vous soit donnée avec abondance. On continue. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement et son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est pas un chrétien qui dit ça, c'est un roi païen en voyant la persévérance et en voyant la moisson que Daniel a obtenue pour prix de sa persévérance. Nous moissonnerons au temps convenable, dit Paul dans Galates 6:9, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Daniel ne s'est pas relâché, il a persévéré malgré tout. Tout comme Joseph a persévéré, lui aussi était un homme de persévérance. Paul dira dans Philippiens 1, verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Toutes ces choses qu'il a vécues, les emprisonnements à répétition, ces luttes, ces périls qu'il a traversés, toutes ces choses ont plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Paul n'a pas abandonné son parcours, mais à chaque fois, il s'est relevé. Je ne sais pas de quoi sera faite ton année qui vient. Je te la souhaite belle et magnifique, mais il se pourrait que tu traverses différentes étapes et différentes difficultés. Et mon message pour toi ce soir est très simple. Persévère. Persévère dans la foi. Persévère dans l'obéissance. Persévère dans la prière. Persévère dans l'intégrité. Persévère dans le fait du faire de bien. Paul dira dans Romains 12, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais toi surmonte le mal par le bien. Persévère. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, tu vas moissonner dans la mesure où tu n'auras pas relâché. Dernier point ce soir, rapidement. On vit dans une société où franchement tout est devenu tellement facile. Maintenant, à partir d'un téléphone, je peux aller faire mes courses. Je peux acheter sur Internet et d'ici ce soir et peut-être demain matin ou encore si j'étais dans une grande ville, je pourrais passer en rentrant à la maison, m'arrêter au magasin, au drive-in et charger mon coffre des victuailles que j'ai achetées par Internet. Ça a l'air tellement facile. Tellement facile. Mais voyez-vous, Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Et il y a une espèce d'idée saugrenue qui existe, c'est que la vie chrétienne devrait toujours être une vie facile, un long fleuve tranquille, une assurance tout risque qui non seulement nous éviterait, enfin nous laisserait dans la panade quand c'est difficile, mais surtout qui nous éviterait toute difficulté. Et ce faisant, ferait de nous de ces gentilles plantes qu'on élève dans les serres, où l'environnement est idéal, l'hygrométrie est parfaite, la température est idéale, l'ensoleillement est génial. Et ces plantes poussent à merveille. Elles ont des couleurs fantastiques, fabuleuses, pas une tache. Mais prenez ces plantes dans la serre et mettez-les dans la vie réelle, dans le vrai jardin. Elles ne tiennent pas le choc. Elles ne tiennent pas le choc. Ce que Dieu veut, ce n'est pas juste des belles plantes, mais c'est des plantes qui ont des racines et qui tiennent le choc. Et qui sont fortes et capables de résister aux tempêtes. Bien-aimés, il y a des exemples dans l'histoire qui nous prouvent que la vie pour aller découvrir d'autres choses, il faut traverser des tempêtes et oser traverser des difficultés et persévérer. On raconte Christophe Colomb quand il est parti vers les Indes. En passant par l'ouest, pas par l'est comme d'habitude, par l'ouest, sachant une voie maritime nouvelle, plus facile, eh bien, à traverser des moments extrêmement difficiles. Il manquait de nourriture, il manquait d'eau. L'équipage, les trois bateaux, voulaient se mutiner et se débarrasser de Christophe Colomb. Mais chaque matin, voilà ce qu'on pouvait lire dans son, journal de bord, chaque matin, il écrivait « Aujourd'hui, on lève les voiles et on y va. » Chaque matin, il disait « Aujourd'hui, on lève les voiles et on y va. » Et pour prix de sa persévérance, il a découvert un continent. Peut-être que pour prix de ta persévérance, tu vas aussi découvrir de nouveaux continents intérieurs dans ta marche avec Dieu. Un nouveau continent de paix et de joie avec ta vie de couple, avec tes enfants. Pour prix de ta persévérance, pour prix de ta persévérance, nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors ce soir, j'aimerais te dire, persévère dans la prière. Daniel, chapitre 10, verset 13, à un moment donné, Daniel est poussé au jeûne et à la prière. Et il va prier. Et pendant un long moment, rien ne vient. Pendant un long moment, rien ne vient. Et tout à coup, il a une vision d'un ange qui lui dira, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Des fois, nous avons en face de nous des résistances spirituelles. Jésus dira, demandez et vous recevrez. Cherchez, frappez. Il y a une progression aussi dans la prière. Tout n'est pas toujours tout cuit du premier jour. Mon ami, persévère dans le combat de la foi. Alors, ce combat de la foi, des fois, je suis surpris comment on le vit dans la tête, mais j'en ai un que j'aime beaucoup, c'est celui de ces quatre amis qui vont amener un paralytique à Jésus. Et dans Marc, chapitre 2, verset 5, on voit ces amis arriver, je les imagine tous les quatre en train d'avoir porté leur ami à bout de bras sur les épaules. Ils l'ont porté pendant tout un temps pour arriver devant Jésus. Et arrivant devant Jésus, il y a la foule qui fait obstruction. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. Peut-être je me serais dit, c'est pas la peine, il y a trop de monde. Quoi. J'ai déjà vu une foule énorme. Une foule devait traverser, mais c'est, des fois c'est une vraie marée humaine, c'est difficile. Mais ces quatre-là persévèrent. Ils grimpent sur le toit, ils enlèvent les tuiles ou la paille, je ne sais pas trop quoi, ce qu'il y avait. En tout cas, ils ont fait un trou dans le toit, dans une maison qu'ils ne connaissaient pas, ce n'est pas leur maison à eux. Et puis ils le font descendre, leur ami. Et j'aime ce qui est marqué de Jésus. Il est dit, Jésus, voyant leur foi. Moi, j'ai dit, mais ça a quelle couleur la foi? Elle était rouge, verte, bleue? Elle était carrée, rectangle, ronde, ovale? C'était un cylindre, un parallélépipède? C'était quoi la foi? Comment est-ce qu'on voit la foi là? On voit la foi. Eh bien, je pense que Jésus a vu leur foi parce qu'il a dû se dire, ces gars-là, ils ont aimé leur ami au point de lui parler, de le convaincre. Et puis, ils se sont mis d'accord ensemble à quatre. Ils ont marché d'un même pas. Ils ont fait des kilomètres avant de venir. Ils ont sué pour leur ami. Mais ils avaient la foi que Jésus allait faire quelque chose pour leur ami. Et ils ont bravé la foule, bravé les interdits, bravé la bienséance. Et finalement, ils l'ont descendu à bout de bras devant Jésus. Et Jésus a vu leur foi. Et à cause de cela, à cause de leur foi persévérante, il a guéri leur ami. Nous allons un instant prier pour les malades. Je voudrais vous dire, veniez-vous pour la millième fois, je vous en supplie, revenez une mille et unième fois, il se peut que ce soir soit le jour de la délivrance, que ce soit le jour de la guérison, parce que ces amis-là sont la preuve vivante qu'il se vaut la peine d'être persévérant dans la prière, dans le combat de la foi. La persévérance aussi dans le fait de croire à la bonté malgré les malheurs qui nous frappent. Bon, il y a un verset que j'ai longtemps trouvé un peu déplacé. Enfin, je l'aime bien le verset, mais quand on y pense vraiment, ça fait un peu bizarre. Il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Moi, longtemps, j'avais interprété le malheur n'atteint jamais le juste. Et Dieu est toujours bon. Je trouve ça assez injuste que le malheur atteigne le juste. Vous pas, non? Non, mais je trouve ça injuste. Hein? Vous vous efforcez de marcher droit. Vous cherchez la face de Dieu. Vous obéissez. Est-ce qu'on vous promet ici, c'est le malheur? Et pas seulement une fois. C'est marqué souvent. C'est un peu bizarre quand même, hein? Vu de ce côté-là. Alors évidemment, il est marqué, mais l'Éternel en délivre toujours. Et c'est vrai, et j'ai déjà vécu. Et je peux en témoigner. Et ça marche. C'est vraiment vrai. Mais quand on est dans le malheur, quand on traverse la vallée, quelle qu'elle soit, une vallée conjugale, une vallée d'un enfant qui tourne mal, qui vire au vinaigre, une vallée professionnelle, et que vous priez, et vous priez encore, et vous priez encore. Et c'est la loi des séries, la loi de Murphy. Vous connaissez celle-là? C'est là où tout s'enchaîne. La maladie, le chômage donne place à le chômage entraîne la maladie entraîne le découragement, etc. La tentation est grande de dire « Je laisse tomber. Allez, je laisse tomber. Je laisse tomber. Je prie, j'obéis, et pour réponse, et pour récompense, la fosse au lion. Mon ami, j'aimerais te dire, sa bonté se renouvelle chaque matin. Ose croire à sa bonté, persévère, 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 persévère. Persévère aussi face à tes propres défaillances. Vous connaissez ce verset qui dit, car sept fois le juste tombe et il se relève. Il y a eu des jours dans ma vie où j'ai désespéré de moi-même, je dis, mais c'est pas possible, c'est possible. Tu devrais être parfait déjà. Et tu penses encore ceci, et tu réagis comme ça, et tu as tel sentiment qui remonte dans ton cœur. Mais ce n'est pas vrai. Mais Seigneur, on peut critiquer David pour beaucoup de choses, et il y a des choses où on peut le critiquer vraiment. Mais s'il y a une chose où on peut l'admirer, où je l'admire vraiment, c'est dans sa capacité à se relever, à s'humilier profondément et à se relever. Il s'est relevé après ses plus grandes chutes. Et il a chuté gravement avec des conséquences qui sont quand même venues. Mais cependant, ce qu'on peut remarquer chez lui, c'est qu'il s'est relevé. Car sept fois, le juste tombe et il se relève. Si vous lisez Jérémie chapitre 2 et 3 d'ailleurs, Jérémie, mais il est intérieurement tellement sens dessus à cause des souffrances qui lui sont infligées, alors que lui, il prêche l'évangile, il prêche la parole de Dieu. Et même il en veut à Dieu, à un moment donné, il lui dit, mais t'es comme une ours pour moi, tu me déchires, tu me rentres dedans, tu me cognes, tu me frappes. Et mais il va dire après, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison qui infecte mon âme, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. La bonté de l'Éternel n'est pas arrivée à son terme. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il a persévéré à croire à la bonté de Dieu. Et nous, ce soir, je nous invite à être persévérants dans le fait de faire du bien. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Paul dira à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. J'aimerais conclure en lisant la chose suivante. L'histoire ne se souvient généralement que des gens qui ont persévéré. Walt Disney, Edison, l'apôtre Paul, Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a été persévérant, rien qu'avec moi. Rien qu'avec moi. Dieu se souviendra des hommes et des femmes qui auront persévéré jusqu'au bout. Marc 13, verset 13, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et bien aimé, c'est possible pour celles et ceux qui ont reçu l'esprit de vie en eux. Luc 8, 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Romains 5, 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Le Dieu que nous servons est décrit ainsi dans Romains 15, 5, le Dieu de la persévérance et de la consolation. Acte 2, 42, on admire l'Église primitive, on est heureux de l'avoir évangélisée, de voir des milliers de personnes arriver. Mais voilà ce qu'ils ont, voilà la marque de l'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Acte 14, 42, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant, Paul disait, que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et pour terminer, Hébreux 10, 36, j'aime ce verset. Il dit, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hey, ce soir, on a eu des promesses, des pans entiers. Des pans entiers de résistance vont tomber dans les années qui viennent et nous moissonnerons ensemble si nous ne nous relâchons pas. J'aimerais tellement que tous ceux qui avaient entendu la prophétie de l'époque puissent être dans la joie de la voir s'accomplir. Et nous ici présents, que dans 10, 15, 20, 25 ans, on puisse se dire « J'étais là, je l'ai entendu. Et maintenant ça s'accomplit. » Il y a 15 ans, je crois, Dieu nous avait dit qu'on était comme une courge qui allait s'ouvrir et que des graines allaient partir dans le monde entier. C'était en 96. À l'époque, Internet était une affaire d'universitaire. Et puis tout à coup, c'est venu. Par des livres, par des films, par les messages sur Internet, par la radio, etc. La persévérance est nécessaire pour remporter le prix. Elle transforme l'adversité en élément, en sujet de progression, et elle nous rappelle qu'elle est indispensable pour une vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie comme un long fleuve tranquille. Des fois, elle est rock and roll. Mais Jésus est toujours là. Chaque matin, il est là. Tous les matins, sa bonté se renouvelle. Chaque matin, sa bonté se renouvelle. Alors, mon ami, Apocalypse 3, 10, je termine par là. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, dit Dieu. Parce que tu as gardé, parce que tu as conservé, parce que tu as médité, parce que tu as appliqué la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mon frère, ma sœur, si 2011 doit être pour toi, pour moi, pour nous, une année de moisson, alors elle sera aussi marquée par le sceau de la... Pardon ? Par le sceau de la...
persévérance.
Vous avez tout compris. Prions ensemble. Samuel, si tu veux venir.
Amen. Prions. Père, nous te bénissons. Ta parole nous fait du bien. Elle nous encourage. Et je te remercie parce que si nous pouvons persévérer, c'est par la foi. Merci parce que tu renouvelles cette dernière ce soir. Et tu vois tous les amis qui sont là peut-être pour la première fois, qui ont du mal à saisir comment l'on peut persévérer lorsque tout s'effondre. Comment espérer là où il n'y a plus d'espérance? C'est la définition même de la foi. Comme Abraham, il crut contre toute espérance. Il n'y avait plus rien à espérer, mais il va croire. Et pour prix de sa persévérance dans la foi, le miracle aura lieu. Seigneur, que nos amis qui ne te connaissent pas encore puissent découvrir ce soir que celui qui met sa foi en Dieu et celui qui accepte que Dieu vienne régner dans sa vie est en mesure de persévérer dans les circonstances les plus difficiles. Alors que nos yeux sont fermés, peut-être que mon ami le pianiste vient, je voudrais simplement, pendant que nos yeux sont fermés, nous sommes individuels devant Dieu, mais demander, y a-t-il quelqu'un ce soir qui réalise que pour triompher, il lui faut de l'aide. Pour triompher, il lui faut vraiment le secours de Dieu. Qui désire ce soir venir à Dieu, non pas pour triompher d'abord, mais pour lui donner sa vie. Pour lui dire, je veux te donner ma vie. S'il y a une seule personne, pendant que Jonathan joue, j'aimerais vous demander juste de lever votre main, je prierai pour vous. Vous levez votre main, vous la baissez. Votre main levée, oui monsieur. Oui, madame, que Dieu vous bénisse. Oui, jeune homme. Oui, mademoiselle. Oui. Oui, monsieur. Si vous désirez donner votre cœur, vous dites à Dieu ce soir, oh viens, je veux te donner ma vie. Oui, monsieur. Oui, madame. Je veux te donner ma vie ce soir. Je veux réellement te donner ma vie. Par moi-même, je n'ai pas la force, mais j'ai entendu ce soir ta parole. Pardonne-moi d'avoir été mis par mes propres voies et mes propres moyens. Plusieurs ont levé leurs mains. Pourrions-nous peut-être faire la chose suivante, nous lever à notre place. Et pourrais-je inviter ces amis à venir ici à l'avant? Comme je l'ai dit, je voudrais vraiment en prier avec vous. Levons-nous ensemble et chantons « Tel que je suis, je viens à toi ». Et vous, chers amis qui avez levé votre main, venez rapidement. Allez, que les pasteurs, que les responsables de l'église viennent, s'il y a des étudiants de l'école biblique, d'anciens ou de nouveaux, qu'ils viennent aussi. Tel que je suis sans rien, approchez-vous à moi. D'autres ont encore levé leurs mains. Vous tous qui avez levé votre main, venez, nous allons prier. Pour moi. Et approchez-vous là, approchez-vous. Approchez-vous. À toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Pendant un instant, prions ensemble. Priez s'il vous plaît avec moi, vous qui vous êtes approchés. Dites simplement, ô Dieu, je m'approche de toi par Jésus, mon Sauveur. Ô Dieu, je m'approche de toi par Jésus, mon Sauveur. Je veux te soumettre ma vie. Je veux te soumettre ma vie. Je veux te demander ton secours parce que sans toi, je ne peux avancer. Je veux te demander ton secours parce que sans toi, je ne peux avancer. Ô Dieu, ce soir, je t'ouvre mon cœur. Ô Dieu, ce soir, je t'ouvre mon cœur. Et je te donne ma vie. Et je te donne ma vie. Viens régner. Viens régner. Viens la diriger. Viens la diriger. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi toutes les fois où je t'ai ignoré et agi en dehors de ta volonté. Pardonne-moi du plus profond de mon cœur. Tel que je suis, je viens. Merci de me sauver ce soir en me donnant une vie nouvelle. Sois béni pour cela. Amen. Père, merci pour ces bien-aimés, pour ces merveilleuses personnes dont le prix n'a d'égal que ta vie sur la croix. Merci parce que tu veux les bénir, les remplir de ta présence, les encourager, venir dans leur vie, et là ils deviendront alors capables de persévérer par la foi face à toutes les circonstances, même les plus difficiles, comme Daniel dans la fosse aux lions ou comme ses trois amis dans la fournaise. Ils pourront rester fermes comme le roc. Je les bénis ce soir. Et quelle que soit leur situation, leur difficulté, je te remercie parce que tu les sauves. Et si le malheur atteint le juste, comme le dit l'Écriture, je te bénis parce qu'elle est accompagnée d'une promesse, mais l'Éternel en délivre toujours. À toi soit la gloire et l'honneur. Fais-leur du bien. Qu'ils partent de ce lieu changés, transformés. Amen. Amen.